Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Écoutez l'ensemble musical d'Oustad Chagan, l'un des grands maîtres du chant indo-pakistanais, le chant hindoustani. Je vous laisse l'apprécier quelques minutes. Bonjour à tous, vous êtes donc dans Culture d'Islam pour une nouvelle saison de cette émission que vous écoutez maintenant le dimanche au lieu du vendredi. Bonjour à tous, vous avez entendu la façon dont le sourmandel, c'est une sorte de harpe, a littéralement surgi tout à l'heure de la récitation du Coran comme un démenti magistralement beau. Face aux intégristes qui voudraient opposer dans la culture d'islam, dans les cultures d'islam, la religion et les arts et faire de la musique une hérésie. Eh bien, non, la musique n'est pas une hérésie. La musique fait partie de la culture et des cultures d'islam. Il y a en islam de grandes traditions musicales. Aujourd'hui, c'est celle du grand maître Oustad Chagan, Oustad Ghulam Hassan Chagan, qui va nous accompagner. Je vous le présenterai un peu mieux au fur et à mesure de cette émission. Aujourd'hui, je reçois, dans la première partie de l'émission, Jean-Baptiste Brenet. Bonjour Jean-Baptiste Brenet.
Bonjour.
Alors, je vous reçois pour un livre au titre inquiétant ou inquiet, Averroès l'inquiétant. C'est aux éditions Les Belles Lettres, c'est paru en 2015. Vous êtes professeur à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous enseignez l'histoire de la philosophie arabe. Vous êtes un spécialiste d'Averroès et de son héritage latin. Vous co-dirigez la collection Translatio, philosophie médiévale chez Vrin, la grande maison d'édition de la littérature philosophique. Vous avez publié notamment avant cet ouvrage, Averroès l'inquiétant, transfert au pluriel, transfert du sujet, la noétique d'Averroès selon Jandin en 2003. Tout de suite, on peut peut-être, parce qu'on aura besoin de ce concept à un moment ou à un autre, expliquer le terme un peu abstrait, un peu abscon de noétique. Qu'est-ce que c'est que la noétique ?
La noétique, c'est tout ce qui relève de l'intellect. C'est la doctrine de l'intellect. C'est un mot français, un terme un peu qui jargonne, qui vient du grec « nous », qui désigne l'intellect, par rapport à la psyché, qui désigne l'âme. Donc la psychologie, c'est la science de l'âme, l'étude de l'âme. La noétique, c'est l'étude de l'intellect.
Alors, tant qu'on y est dans les définitions et les concepts préliminaires, définir ce qu'est l'intellect. Qu'est-ce que c'est que l'intellect et en quel sens, justement, la philosophie médiévale, dont Averroès est un des représentants, définissait l'intellect ou peut-être les intellects ?
Effectivement, le pluriel est bienvenu parce que l'intellect n'est pas une puissance propre à l'homme seulement, puisque Dieu est intellect et que entre Dieu et les hommes, pour tous les médiévaux, il y a une série de formes qu'on appelle en théologie les anges et que les philosophes voient comme des intellects. Donc c'est un terme assez polysémique. S'agissant de l'homme toutefois, l'intellect c'est la meilleure de ses puissances. Ce qui est censé le définir, c'est-à-dire c'est sa rationalité, c'est la capacité qu'il a de conceptualiser. C'est-à-dire de se rapporter à des notions universelles et non pas du singulier, le singulier que donne son expérience. Donc l'intellect c'est ça, c'est soit le mot qui désigne son âme, l'âme caractéristique de l'humain comme animal rationnel, soit la meilleure des puissances de cette âme. La difficulté étant que, depuis Aristote au moins, personne n'a su exactement comment penser le rapport entre cet intellect et le corps de l'individu.
Depuis le traité de l'âme, et c'est dans cette longue histoire, donc inaugurée au moins par le traité de l'âme d'Aristote, que va s'inscrire justement cette intervention d'Averroès. Alors, situons pour nos auditeurs, avec Averroès, on est en plein XIIe siècle.
Oui, c'est ça.
C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Il va être ensuite beaucoup commenté par Thomas d'Aquin un siècle plus tard. Vous titrez votre livre « Averroès l'inquiétant ». Alors, je vais vous poser tout de suite la question. Pourquoi est-ce que Averroès a tant inquiété, dès le départ, ou en tout cas très rapidement, ceux qui l'ont lu ? Quel a été le motif de cette inquiétude ? Et est-ce qu'on peut encore comprendre aujourd'hui le motif de cette inquiétude et la gravité aussi de cette inquiétude ?
Ça, c'est l'un des enjeux de repérer quelque chose comme une inquiétude dans Averroès et plus largement peut-être dans la pensée arabe par rapport au monde latin ou à l'Europe. Les termes sont un peu flous. Pour ce qui est du départ, je crois qu'il ne faudrait pas parler tout de suite d'inquiétude. Ce qui a eu lieu, c'est un scandale. Averroès a scandalisé la scolastique naissante et tout de suite puissante à travers les grands génies qui étaient Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Bonaventure. L'inquiétude, c'est une notion un petit peu différente. À partir du moment où on constate, ce qui est mon point de départ, que le scandale a duré, étonnamment, qu'il y a eu comme une histoire de ce scandale, qu'Averroès, pourtant démonté, ruiné, philosophiquement, n'a cessé de reparaître. À partir de ce moment-là, on peut penser le rapport d'Averroès à l'Europe comme un rapport inquiétant, d'inquiétance, pour reprendre une traduction que les psychanalystes avaient proposée, du terme unheimlich, unheimlichkeit, Mais dans un premier temps, c'est en termes de scandale qu'il faut penser.
Quel est l'objet de ce scandale qui a fait couler beaucoup d'encre
Le scandale est assez simple. Averroès, donc, c'est un penseur du XIIe siècle. Il meurt en 1198 et ses œuvres traduites en latin, qui est l'espace qui va, plus que tous les autres, travailler sa mémoire et son œuvre. Ses œuvres arrivent traduites en latin à Paris vers 1225, donc assez vite finalement. Pendant une vingtaine d'années, on commence à lire ses œuvres et cela ne pose pas de problème. Mais à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, ses commentaires, Averroès n'a pas été qu'un commentateur d'Aristote, mais c'est comme commentateur d'Aristote principalement que les latins vont le connaître. Et ses commentaires que tous les médiévaux latins se voient obligés d'utiliser, parce qu'il n'y a pas de meilleure entrée quasiment pour comprendre Aristote. Ces commentaires sont tous lus, tous utilisés, plus ou moins acceptés, sauf sur un point, précisément celui qui concerne la théorie de l'intellect. Parce que là, Averroès est peut-être celui qui, il n'est pas le seul, tous les successeurs d'Aristote, tous les héritiers du péripatétisme gréco-arabe ont tâché de comprendre ce qu'Aristote disait dans son traité de l'âme, du rapport entre l'intellect et l'âme ou entre l'intellect et le corps. Mais Averroès, peut-être plus que les autres, a produit une exégèse qui se voulait fidèle à Aristote, il ne s'agissait pas de faire originale, une exégèse radicale qui a débouché sur un certain nombre de thèses que là, les latins ne pouvaient pas, n'ont pas pu, n'ont pas voulu accepter.
Alors on comprend que le scandale, avant même l'inquiétude, se noue, se joue autour de la façon dont Averroès conçoit, ou en tout cas est censé concevoir l'intellect à travers une thèse que vous énoncez dès le départ. Il a conçu, ou il aurait conçu, en tout cas c'est comme ça qu'il a été compris, trois thèses en une au sujet de l'intellect. Vous dites, il est séparé, il est un, il est éternel.
C'est ça.
Alors pour nous, lecteurs modernes, enfin lecteurs d'aujourd'hui, il y a là des thèses qui commencent par frapper d'abord par leur abstraction un peu métaphysique. Mm-hmm. Hein, et donc je crois qu'il est tout à fait nécessaire d'expliquer d'abord ce que peut vouloir dire le fait que l'intellect est séparé, mm-hmm. un et éternel, et ensuite mm-hmm. en quoi il peut y avoir là un motif de scandale, puisque ça nous paraît tellement abstrait que de prime abord ça ne nous émeut pas beaucoup. Mm-hmm. Hein.
La séparation, première thèse, la séparation de l'intellect, il faut tout de suite la affiner, cette thèse-là. Plus exactement, ce serait une séparation substantielle, ce qui complique l'énoncé, ce qui introduit une difficulté de plus.
Bon, allons-y.
Mais l'idée est assez simple. Aujourd'hui, on a du mal dans la neuroscience ou la psychologie cognitive, on a du mal à penser le rapport entre le cerveau dans sa matérialité et la production même de la pensée, elle-même immatérielle. Donc il y a quelque chose qui survient à l'activité cérébrale.
Voilà, on a du mal à penser la frontière, si même frontière il y a.
À supposer qu'il y ait une frontière, ce que certains contestent, comment articuler la matérialité du cerveau avec l'immatérialité du concept. Cette immatérialité, c'est ce que déjà les Grecs, au fond, appellent la séparation. Donc pour tous les philosophes, c'est une banalité, depuis les Grecs, de dire que la pensée est quelque chose de séparé du corps, en ce sens que la pensée comme telle, une notion abstraite, disons l'humanité, la méchanceté, n'a pas lieu, ne se produit pas dans le corps. Il se trouve que dans cet ensemble assez consensuel, Averroès lui va plus loin et considère que l'intellect, c'est une sorte de réalité autonome par rapport au corps. C'est ce que techniquement on désigne par le nom de substance. L'intellect humain n'est pas simplement quelque chose d'immatériel, il faut aller plus loin pour penser cette immatérialité et dire que ce serait par rapport à mon corps quelque chose d'autonome, c'est-à-dire une réalité distincte radicalement de lui et qui nous demanderait du coup d'envisager par après une sorte de réunion, de connexion pour que la pensée ait lieu.
Alors, on a même le sentiment en vous lisant que la suspicion, vous dites Averroès le suspect, il est désigné comme suspect. La suspicion va même plus loin puisque la pensée qui a lieu en l'homme, en admettant donc que ce soit l'homme lui-même qui la produise, non seulement ne serait pas corporelle mais peut-être ne serait pas, je vais le dire d'une façon un peu radicale, tout à fait humaine. Hein, c'est-à-dire que, est-ce que c'est véritablement, est-ce qu'avec cet intellect, on a affaire à une faculté qui appartient vraiment l'être humain, qui est un exercice de ses propres facultés, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose en lui qui pense et qui lui serait transcendant, puisque justement, si on va jusqu'au bout de cette idée de séparation, Et c'est là justement que ça commence à inquiéter. Il y aurait quelque chose ou quelqu'un d'autre qui pense en l'homme à la place de l'homme lui-même, ce qui met en péril la notion même qui commence là d'émerger, d'être construite par la philosophie, qui est la notion de sujet, qui implique le fait non seulement d'être conscient de ses propres actes, mais d'être l'auteur d'abord de ses pensées.
Oui, absolument. Et je n'ai parlé que de la séparation pour l'instant, la séparation substantielle, ce qui est la première thèse ayant fait scandale. Mais tout est là, presque déjà. Et on voit déjà là aussi quel rapprochement assez facile on peut faire avec Freud ou avec Nietzsche ou avec
que
Marx.
Que vous faites d'ailleurs longuement dans le livre.
Que je fais.
Vous dites à un moment donné, ça pense.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, un système qui sépare aussi radicalement l'homme ou le corps de l'homme de l'instance chargée de produire le concept, eh bien, risque de déboucher sur cette conclusion que l'homme n'est qu'un instrument d'une instance supérieure qui l'utilise pour penser, qui pense éventuellement en lui, le résultat étant que l'individu lui-même ne pense pas. Donc, effectivement, avec la séparation substantielle, presque l'essentiel du scandale est déjà là, même si ça n'est pas la thèse la plus célèbre. Mais il faut voir que c'est la radicalité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour tous les philosophes, tous les théologiens, peut-être tous les hommes, il y a une sorte d'évidence à dire que quelque chose comme un principe séparé intervient dans la production de la pensée. Bon, c'est Dieu pour les théologiens, disons, principe d'illumination qui vient valider au moins mes concepts. Mais Averroès lui va plus loin, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement la source de la vérité qui m'est transcendante, c'est le lieu même du concept. L'intellect, chez lui, c'est l'intellect pris dans sa dimension à la fois créatrice, productrice, active, illuminative, si vous voulez, mais aussi réceptrice. Il est le seul dans l'histoire à avoir séparé aussi radicalement donc l'instance réceptrice de la pensée.
C'est vraiment la question du lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui a lieu en l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce qui a son lieu en l'homme.
Oui, c'est-à-dire qu'apparaît cette thèse qui va choquer, mais bizarrement elle ne peut choquer que sur fond de quelque chose qui est en train de s'élaborer. Cette thèse selon laquelle la pensée ne se fait pas en moi, ce qui a priori n'a rien de très émouvant, sauf pour quelqu'un qui considère que la localisation en soi ou la présence en soi ou la subjection est la condition de la personnalité de
la pensée. Alors, hypothèse qu'elle ne se fait pas en moi, qu'elle ne se fait pas peut-être aussi réellement ou pleinement par moi, mais par participation de ma propre activité intellective, c'est-à-dire de ma propre pensée, à l'activité supérieure d'un intellect qui serait transcendant et qui serait un dieu, un dieu qui serait conçu comme quoi ? Comme une intelligence universelle, comme une intelligence toujours en acte, comme une intelligence en activité justement. Les intelligibles de Platon, par exemple.
Alors, il se trouve que l'identité de cet intellect transcendant n'est pas très nette chez Averroès, mais cela participe du scandale pour les latins parce que ça n'est pas Dieu chez lui. C'est-à-dire, c'est quelque chose, à la limite, si tout revenait à Dieu, bon, les théologiens auraient pu s'en satisfaire, mais ça n'est pas le cas. Mais l'autre problème est que dans cette affaire, je ne suis pas simplement coopérant, coactif, coadjuteur, ce qui aurait pu aussi satisfaire des esprits lecteurs de Saint Paul, par exemple. Non, j'interviens effectivement, mais la question c'est de savoir à quel titre j'interviens, quel est le statut de mon intervention. Et il se trouve que, tel que les latins l'ont compris, j'interviens dans cette affaire, qui n'est pas la moindre des choses, puisque c'est la production de la pensée censé me définir, j'interviens comme simple fourniture, comme simple objet. C'est-à-dire, j'apporte avec mon corps ce dont quelque chose d'extrinsèque va se servir pour produire ce qui est censé me définir.
Voilà. C'est-à-dire le statut de sujet.
Je ne suis pas sujet, je ne suis pas sujet au sens moderne du terme. La notion n'a pas encore le qu'elle aura plus tard. Je suis sujet de quelque chose, c'est-à-dire au sens médiéval du terme, je suis substrat, je suis le lieu de quelque chose. Mais de la moindre des choses, c'est-à-dire je suis le lieu d'images que je reçois de mon expérience du monde, et ces images sont comme des fournitures dans lesquelles va piocher, sur quoi va intervenir une instance surplombante, extrinsèque, antérieure à moi, supérieure à moi, autre que moi.
Voilà, alors cette instance surplombante...
Ce serait l'intellect.
Voilà, vous dites, Aristote y voit une intelligence inengendrée, incorruptible, la dernière d'un cosmos lui-même sans naissance et sans fin, où chacun, limité dans son corps périssable, serait précédé d'un esprit devant lui survivre indifféremment. Et voilà l'enjeu qui arrive. Aux yeux des adversaires latins d'Averroès, tout cela faisait un désastre, dites-vous. Pourquoi ? Qui lisait-on ? Fondamentalement, la ruine de la rationalité personnelle, qu'une formule, telle un contre-slogan exorbitant, venait résumer. Eh bien, finalement, l'homme ne pense pas. Et vous explicitez encore l'enjeu en disant, je vous cite, « Dans cette double insulte, le mot est fort, à l'espèce comme à l'individu, la morale, la politique et la religion devenaient caduques, plus de bons, plus de méchants, plus de personnalité, d'intimité, d'auteur, d'acteur, plus de moi, plus de toi. Rien ne se concevait plus et les humains décentrés, je crois que cette notion de décentrement est importante, hein, on a parlé à propos d'Averroès d'un décentrement averroïste du sujet, décentrés, dissous dans un cogitatour global comme absorbé, refluant dans le tout, y perdait conscience et liberté. Alors voilà, là on a tout un ensemble de termes qui nous montrent, me semble-t-il, des enjeux concrets. Si vous pouvez essayer de nous expliquer
oui, alors,
un peu de quoi il s'agit.
Pour expliquer cet enjeu, il faut, on n'a parlé pour l'instant que de la première thèse, parler des deux autres thèses. Outre la séparation qui fait de l'intellect une réalité hors de moi, autre que moi, Averroès serait celui qui aurait dit de cet intellect qu'il est un pour toute l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle... traditionnellement le monopsychisme, d'un terme mal choisi, puisque monopsychisme veut dire une seule âme, il aurait fallu parler de mononoïsme ou nouïsme. Donc un seul intellect pour toute l'espèce, et cet intellect, par ailleurs, n'aurait pas été engendré, n'aurait pas été créé, il serait éternel, comme l'espèce humaine, et il survivrait indéfiniment aux individus. Alors, la conclusion de tout cela, eh bien, c'est Thomas d'Aquin qui va l'imposer à la tradition. Lorsque Thomas d'Aquin lit cela, il résume le caractère exorbitant, comme on vient de le dire, de ce système, d'une formule en disant, chez Averroès, au fond, on n'est plus en mesure de vérifier, de démontrer cette proposition pourtant évidente pour tous. En vérité, elle n'a rien d'évident, c'est ça qui est intéressant, mais Thomas la présente comme telle, à savoir que cet homme pense. Cet homme pense, hic homo intelligit en latin, c'est la version médiévale de l'ego cogito de Descartes. Et Averroès, c'est l'homme, pour les latins, dont le système prétendument fidèle à Aristote détruit ce que j'appelle la rationalité personnelle, c'est-à-dire rend impossible de vérifier, de se conformer à cette expérience que nous faisons quotidiennement, à savoir que nous pensons, tout simplement. Et c'est comme cela qu'il entre dans l'histoire latine et qu'au fond, il n'en sortira jamais, ce qui m'a intéressé.
Voilà, il n'en sortira jamais, puisque plusieurs commentateurs y ont insisté. Encore il y a quelques années, Alain de Libera, la question autour d'Averroès se prolonge jusqu'à Leibniz, par exemple, va se prolonger encore jusqu'à Ernest Renan.
C'est ça.
Je lis, par exemple, un passage tout à fait caractéristique de Leibniz. On est en 1702, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous allez le voir, Leibniz dit qu'il y a quelque chose qui a été présenté comme la thèse d'Averroès au sujet d'un intellect qui serait un et qui n'est peut-être pas la pensée d'Averroès. C'est-à-dire que Leibniz introduit l'idée qu'il y aurait eu un malentendu au sujet d'Averroès, ou une part au moins de malentendu. Voilà ce qu'il dit. « Plusieurs personnes ingénieuses ont cru et croient encore aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul esprit, qui est universel, et qui anime l'univers et toutes ses parties, chacune suivant sa structure et suivant les organes qu'il trouve, comme un même souffle de vent fait sonner différemment divers tuyaux d'orgue. Aristote a paru à plusieurs d'une opinion approchante qui a été renouvelée par Averroès, célèbre philosophe arabe. » Et ensuite, Leibniz dit... mais lorsqu'on va jusqu'à dire que cet esprit universel est l'esprit unique et qu'il n'y a point d'âme ou esprit particulier, ou du moins que ces âmes particulières cessent de subsister, je crois qu'on passe les bornes de la raison et qu'on avance sans fondement une doctrine dont on n'a même pas de notion distincte, qui détruit l'immortalité des âmes et dégrade le genre humain, ou plutôt toutes les créatures vivantes, de ce rang qui leur appartenait et qui leur a été attribué communément.
Oui, tout est là. Vous voyez, Leibniz ici est un fils, un petit-fils de Thomas d'Aquin. Il faut bien comprendre une chose. Thomas écrit contre Averroès en 1256, 1260, voilà. 1270. Voilà, on est au XIIIe siècle.
Voilà, et avec Leibniz, on est au début du XVIIIe siècle. Exactement. Donc on voit comment, de siècle en siècle, la discussion se
poursuit. Et lorsque Thomas, mais pas seulement Thomas, les plus grands, Duns Scott, Albert Legrand, écrivent contre Averroès, ils lui ont, si je puis dire, réglé son compte. Mmh. Donc théoriquement, Averroès ne doit plus reparaître. Or, que constate-t-on? Et c'est cela qui surprend. On constate que Averroès n'a jamais disparu. Alors, je ne vais pas mentir en disant que c'est le personnage central de toute notre histoire, pas du tout, mais il est toujours là, en arrière-fond, à intervalles réguliers, il revient, on le ressort du placard comme c'est un épouvantail.
Ou un fantôme.
Au 14e, un spectre. Il a une présence spectrale, comme ça, sur 500 ans, au moins, puisque c'est lui encore que choisit à Renan en 1852 pour écrire sa thèse. Donc c'est un personnage qu'on retrouve, mais dans des champs très divers. Lorsqu'on attaque Descartes au XVIIe siècle, de quoi l'accuse-t-on ? En partie, d'averroïsme, on le rapproche d'Averroès. Lorsqu'on attaque Kant en 1800, de quoi le rapproche-t-on ? De qui le rapproche-t-on ? D'Averroès, alors qu'il est censé être mort et avoir disparu du champ actif de la pensée depuis des siècles. Lorsque Bayle a écrit une notice de l'averroïsme en disant, sur l'averroïsme en disant « Oh, plus personne ne lit Averroès, cela ne vaut pas une heure de peine », eh bien, sa notice est l'une des plus importantes avec Spinoza de tout son dictionnaire. Donc, il faut prendre la mesure de ce phénomène, et c'est pour le faire qu'avec Freud, j'ai essayé de réfléchir dans ce livre.
Oui, alors je dirais même, avant même que vous mobilisiez Freud, il y a cette thèse de l'inquiétante étrangeté d'Averroès, parce que comme vous le dites, à chaque fois que des auteurs, des penseurs, des philosophes occidentaux se mettent à développer un certain type de discours, on les suspecte d'averroïsme, ou en tout cas de ce qu'on prend pour l'averroïsme. Et donc en réalité, on a cette figure spectrale, ce fantôme qui nous renvoie à nous-mêmes, qui renvoie la tradition philosophique occidentale à elle-même, à quelque chose qui semble lui être étranger, mais vous faites tout un travail sur la notion d'étrangeté, le Unheimlichkeit, justement, pour montrer que dans l'inquiétude et dans l'étrangeté, il y a aussi du familier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, exprimé par l'avéroïsme, ou par ce qu'on croit penser, trouver dans l'avéroïsme, la crainte de quelque chose qu'on a en soi, d'une tentation qu'on porte en soi, ou d'un risque de la pensée qui existe au sein même de la tradition occidentale.
C'est sûr que la condamnation dit toujours quelque chose de celui qui condamne.
Voilà.
Bon, il faut s'intéresser aux raisons de cette condamnation, aux raisons de cette histoire. Moi, j'ai mobilisé le concept freudien très très connu, très très classique, d'inquiétante étrangeté, une traduction française un peu malheureuse, mais enfin classique. Et effectivement, la thèse, pour le dire très très vite, de Freud est de dire que cette forme d'angoisse qui est l'inquiétante étrangeté, qui est le sentiment qu'on ressent et qu'on appelle l'inquiétante étrangeté, c'est une angoisse devant non pas du non familier, mais du jadis familier, de l'autrefois familier, recouvert, surmonté, refoulé, et qui revient, et qui, revenant, nous angoisse. Quelque chose, au fond, qui ne passe pas, et qui, nous revenant, alors même qu'on pensait l'avoir dépassé, nous angoisse. Il m'a semblé, en faisant des analyses de détails, qu'il était possible de mobiliser cette catégorie pour comprendre la récurrence de la figure averroïste dans l'histoire. Et l'enjeu, vous l'avez pointé, l'enjeu, me semble-t-il, crucial, assez simple, mais crucial quand même, consiste à dire, comme je le dis en conclusion, que si tel est le cas, si Averroès a angoissé l'Europe et la latinité parce qu'il était étrangement inquiétant au sens freudien du terme, cela signifie qu'il n'est pas l'autre ou le barbare de l'Europe ou des Latins, qu'il n'est pas le non-familier, qu'il n'est pas l'inconnu, mais qu'il est du familier refoulé, qu'il est du familier recouvert. Que s'il est un ennemi, c'est un ennemi du dedans, pour employer des formules qui ont été parfois malheureuses dans l'histoire. Mais Averroès n'est pas l'autre. Ce n'est pas celui qui est à la frontière, c'est celui qui nous angoisse du dedans, si vous
voilà.
voulez.
Voilà. Et donc, à quel refoulé prête-t-il son nom de façon si scandaleuse ?
Ah, ça, c'est la question la plus difficile. Celle à laquelle je n'ai pas... Parce que je considère que le livre... C'est un essai, donc, est un peu ouvert.
Vous ouvrez beaucoup de pistes.
Voilà, donc je n'ai pas absolument répondu, parce que la question, c'est une fois qu'on considère qu'on peut mobiliser cette catégorie pour penser le rapport de la latinité à Averroès, reste à se demander qu'est-ce qui, précisément, angoisse, nous inquiète dans Averroès. Alors, il y a plusieurs réponses à cela. D'abord, c'est un système qui, par sa radicalité, a mobilisé nombre d'éléments dont Freud fera des motifs d'inquiétante étrangeté. Effectivement, la notion de double, la notion de possession, la notion d'hétéronomie, la notion de répétition du même, je n'entre pas dans le détail.
Voilà. Alors, pour nos auditeurs, la notion de double, par exemple, toujours à partir de cette hypothèse prêtée à Averroès, qu'il y a quelque chose qui pense en nous et qui n'est peut-être pas nous-mêmes. Nous ne sommes peut-être pas les auteurs et les maîtres ou les décideurs de notre pensée qui s'élabore. Vous faites d'ailleurs référence à cet égard à cette pensée d'Averroès comme à une première blessure narcissique. Hein. Et là encore, on retrouve le vocabulaire que va emprunter Freud au XIXe siècle. On se souvient que Freud disait « Avec la psychanalyse, je viens d'infliger à l'humanité le troisième démenti à son orgueil naïf. Hein. » Et donc la troisième des grandes blessures narcissiques, la première des grandes blessures narcissiques, dit Freud, c'était le moment de Copernic, hein, c'est-à-dire le moment où un scientifique a dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Ensuite, le deuxième démenti était l'œuvre de Darwin, hein, qui dit à l'homme non, eh bien tu n'es pas un être qui a une ascendance surnaturelle, tu es un animal comme les autres. La troisième blessure narcissique est infligée par le freudisme à travers par exemple la célèbre formule selon laquelle le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Et il y aurait donc là quelque chose avec Averroès qui très tôt se joue aussi, qui serait de l'ordre de la blessure narcissique, puisque selon en tout cas la lecture qu'on en fait en Occident, eh bien il aurait dit à l'homme, écoute, je suis absolument désolé pour toi, là encore ton orgueil va souffrir, hein, ton narcissisme va souffrir, puisque tu n'es peut-être pas l'auteur de tes pensées.
Oui, c'est cela, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, il y a une tradition augustinienne de l'intériorité très importante dans le monde latin. La philosophie du sujet au sens moderne du terme n'a pas encore eu lieu, et on peut penser d'ailleurs que c'est en partie contre l'avéroïsme qu'elle s'est bâtie. Mais Averroès, c'est l'homme, pour les latins, qui décentre l'individu, c'est-à-dire qui décentre sa personnalité en considérant d'une part que l'individu en lui-même n'a aucune importance, que tel que les latins le comprennent, hein, c'est-à-dire que les hommes ne sont là que pour fournir une sorte de matière à penser à une intelligence qui les surplombe, et que la pensée ne se joue pas en lui, ne se fait pas principalement par lui, qui n'en est pas l'auteur ni le bénéficiaire principal. Donc c'est ce décentrement-là qui est la première blessure narcissique, même si, encore une fois, cela advient à un moment où l'idée que l'homme soit, au sens moderne du terme, le sujet de sa pensée et de ses actes n'a pas encore eu lieu. Mais c'est précisément un moment d'ébullition où c'est en train de se jouer.
Je lisais ce que dit Alain de Libera, hein, donc le professeur au Collège de France, éminent spécialiste de la philosophie médiévale, dans la traduction qu'il a donnée du grand commentaire, hein, du grand commentaire d'Averroès, qui est paru donc sous le titre L'intelligence et la pensée chez Garnier Flammarion. Et Alain Libera dit quelque chose d'intéressant, me semble-t-il, sur lequel je voudrais que vous nous éclairiez un peu. Il dit, il y a effectivement décentrement du sujet, il y a peut-être autre chose en l'homme qui pense que l'homme lui-même, ou en tout cas, et c'est une hypothèse qui a été faite, autre chose que ce que l'on considère habituellement comme l'être humain ou l'homme. C'est-à-dire cette hypothèse que ce transcendant qui pense en l'homme serait peut-être une partie transcendante de l'être humain, ou une dimension transcendante de l'être humain, comme l'ont dit un certain nombre de penseurs, un élément, je cite Alain Libera, un élément divin qui est au plus haut degré l'homme même, et, dit-il, ce qu'Aristote appelle la partie la plus noble de l'âme qui soit en l'homme. Donc ma question est la suivante, il y a décentrement, ce n'est peut-être pas effectivement notre pensée qui est totalement, à l'œuvre, mais ça nous conduit, me semble-t-il, à une interrogation qui est l'interrogation « qui suis-je ?» C'est-à-dire, est-ce que chez l'être humain, il n'y a que, je dirais, un régime de pensée qui est un régime de pensée ordinaire, ou est-ce qu'il y a un exaucement possible de la pensée humaine, et à partir de là, de la qualité d'homme, jusqu'à quelque chose de transcendant qui penserait donc à la fois à notre place, c'est-à-dire à la place de celui que nous sommes habituellement, tout en ne cessant pas d'être nous-mêmes. Donc quelque chose de paradoxal, qui éviterait peut-être de tomber dans un certain nombre de dualismes entre ce qui est l'homme et ce qui n'est pas l'homme et ce qui le dépasse.
Ça, c'est une lecture charitable que les médiévaux latins n'ont pas fait.
Je suis plus charitable que les médiévaux latins et Alain Libera aussi, donc super.
Alors, ça renvoie à une vieille tradition au moins aristotélicienne, c'est la fin de l'Éthique à Nicomaque, livre 10, chapitre 7. De la part divine en l'homme et que l'homme devrait vivre comme s'il était un dieu en tâchant de s'immortaliser. Effectivement, vous avez raison. Aucun médiéval ne nierait le fait qu'il y ait une part divine en l'homme et que l'homme a comme tâche de se diviniser. La question, c'est de savoir ce qui, en propre, revient à l'homme d'abord. Et chez Averroès, selon les latins, l'homme est bien trop dépossédé. L'homme n'a rien. L'homme n'a pas de rationalité en marche. L'homme n'est qu'un corps plein d'images, un corps imaginant. Et puis, dans le meilleur des cas, il se joint à cette réalité transcendante. Mais ça ne sera pas lui à la fin, mais ça n'était déjà pas lui au début. C'est en quoi je dis que votre lecture est charitable. Reste que ce que vous proposez comme lecture me paraît assez conforme à ce qu'Averroès, l'Averroès authentique dirait. Hein, lorsque je m'accomplis dans cet intellect transcendant... C'est bien moi qui m'accomplis, cette part transcendante en moi est bien une partie de moi, et il faut essayer de penser cela jusqu'au paradoxe.
Jean-Baptiste Brenet, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Pour cette discussion sur Averroès. Nous allons retrouver maintenant la compagnie d'Oustad Ghulam Hassan Chaghan et de son ensemble musical.
Allah na ma ja.
Vous êtes sur France Culture, on est dans Culture d'Islam, c'est Abdennour Bidar. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de m'entretenir dans la première partie de l'émission avec Jean-Baptiste Brenet pour un livre très singulier intitulé « Averroès l'inquiétant ». Et puis tout au long de cette émission, eh bien, on est accompagné par de la musique. Aujourd'hui, c'est Oustad de Ghulam Hassan Chagan. Je vous l'ai dit au départ, c'est l'un des grands maîtres interprètes du chant indo-pakistanais. C'est l'héritier d'un genre qu'on appelle le Bara Khayal, la forme la plus profonde, contemplative, spirituelle du chant hindoustani. Oustad Chagan, qui nous a quittés en février 2015, il était né en 1928, il est mort à Lahore, il était né à Amritsar. Voilà. Toutes les semaines dans la deuxième partie de Culture d'Islam, eh bien, je vais vous proposer de réfléchir avec moi, de méditer un peu dans cette ambiance musicale qui, je l'espère, se prête justement à la méditation, à une grande phrase du répertoire intellectuel des cultures d'Islam. Et cette semaine, c'est une phrase d'Averroès. Il a déjà été question d'Averroès dans la première partie de cette émission. Averroès écrit dans son traité décisif, on est dans la deuxième moitié du XIIe siècle, il écrit une phrase simple en apparence et pourtant paradoxale et pourtant étrange, peut-être même un peu inquiétante elle aussi. Il dit « Le vrai ne peut pas contredire le vrai ». La vérité donc ne peut pas être contraire à la vérité, mais elle s'accorde avec elle et elle témoigne en sa faveur. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que le vrai ne peut pas contredire le vrai ? Je demande tout de suite à Jean-Baptiste Brenet, qui est un grand spécialiste d'Averroès, de nous donner peut-être un premier éclairage, une première intuition sur cette phrase.
C'est une phrase cruciale. Il n'est pas impossible qu'elle soit tirée d'Aristote. Et il faut savoir qu'on la retrouvera chez Thomas d'Aquin. L'intérêt est qu'Averroès l'applique à l'islam. Et chez lui, ça veut dire cette chose absolument centrale, à savoir que la révélation, la loi, la révélation coranique, ne peut pas contredire la philosophie d'origine hellénistique, la philosophie aristotélicienne.
À l'époque d'Averroès, il y a un enjeu à affirmer cela, c'est-à-dire à affirmer le droit de la raison face de ce que dit la foi.
Il y a un enjeu, lorsque d'ailleurs Averroès écrit cette phrase, il l'écrit en qualité de juge qu'il est, il est grand cadi de Cordoue, donc c'est une phrase publique, très forte, et il s'agit pour lui d'expliquer au pouvoir qu'il soutient que ce pouvoir, le pouvoir almohade, a raison de le soutenir et qu'ils n'ont rien à craindre de la philosophie qu'Averroès pratique, puisque cette philosophie jamais ne viendra contredire la parole coranique qui cimente évidemment le peuple de l'islam.
Donc il rassure le pouvoir, il rassure aussi les autorités théologiques. Il réalise ce tour de force de faire exister légalement l'exercice de la raison.
Il rassure, mais ça n'est pas simplement de la psychologie qu'il fait, parce que c'est une pièce maîtresse de son système. Il justifie, il explique ce qu'il entend par là. Et ce qu'il entend par là, c'est que le Coran, en cas de contradiction avec la philosophie, le Coran doit être interprété. Il n'est aucun verset coranique qui ne puisse, au prix d'une certaine interprétation, fait par les bonnes personnes, qui ne puisse s'accorder parfaitement avec la conclusion d'une démonstration philosophique. Donc ça n'est pas simplement une phrase destinée au pouvoir, mais sans fondement théorique, c'est le cœur même de son système, tout à fait sincère me semble-t-il, et qui veut que la philosophie, c'est-à-dire la falsafa, la philosophie peut tout à fait se pratiquer en islam parce qu'elle ne contrevient pas à la loi coranique.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Brenet. Ah, 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 ah Culture d'Islam sur France Culture, on est en train de commencer à s'interroger, je le faisais avec mon invité, puis je vais poursuivre un peu tout seul, sur une phrase d'Averroès un peu difficile, un peu paradoxale. Averroès écrit dans son traité décisif, hein, à la fin du XIIe siècle, on est en 1180 à peu près, il écrit « La vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. » Alors c'est une phrase qui sera explicitée un peu par saint Thomas d'Aquin, un siècle plus tard, quasiment un siècle plus tard, en 1260, notamment dans sa Somme contre les gentils. Saint Thomas d'Aquin dit, Averroès a voulu dire la chose suivante. « Seul le faux étant le contraire du vrai, il est impossible que la vérité de la foi soit contraire au principe que la raison connaît naturellement. » Alors, on a une explicitation ici, déjà une première explicitation de ce que Averroès a voulu dire, puisque il se serait agi pour lui d'affirmer qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la vérité de la foi et la vérité de la raison. Et on comprend que l'enjeu pour lui, évidemment, c'est d'accorder la religion et la philosophie, hein, les deux grandes sœurs ennemies qui sont toujours habituellement, que ce soit en islam ou ailleurs d'ailleurs, en train de s'excommunier mutuellement, en train de s'accuser mutuellement de divagation. La religion est toujours méfiante à l'égard de l'usage de la philosophie ou de la pratique de la philosophie, et la philosophie, elle, est toujours critique vis-à-vis d'une religion qu'elle juge totalement ou en grande partie superstitieuse, obscurantiste, irrationnelle. Et donc c'est dans ce contexte général d'opposition, ou dans ce contexte habituel d'opposition entre la religion et la philosophie, l'une se méfiant de l'autre, l'autre se méfiant de la première, que Averroès, lui, postule au contraire qu'il n'y a pas du tout de contradiction, mais qu'il y a une cohérence, qu'il y a une complémentarité entre ces deux facultés que sont la capacité de croire et la capacité de penser. Il y aurait donc ce qu'on appelle habituellement une unité du vrai, une unité de la vérité qui pourrait donc être atteinte, bon c'est peut-être un peu optimiste de dire de la vérité qu'elle peut être atteinte, qui pourrait être en tout cas visée ou approchée aussi bien par la foi du croyant que par la réflexion du philosophe, et peut-être aussi on peut faire intervenir ce qui sera le cas des soufis en islam, la vision mystique de la vérité, en admettant là encore qu'une telle vision mystique soit possible et que la vérité ne reste pas toujours pour l'esprit humain plutôt un horizon, quelque chose qui est un idéal inaccessible qu'on croit atteindre mais qu'on ne détient jamais totalement. Alors évidemment, lorsqu'Averroès écrit que la vérité ne peut être contraire à la vérité, il s'agit avant tout d'une vérité sur quelque chose, d'une vérité qui porte sur l'existence de Dieu. Alors on sait que, aussi bien en islam que dans notre civilisation occidentale, eh bien, l'existence de Dieu est postulée par la foi, mais que la raison a essayé, elle également, de son côté, de dire quelque chose de cette existence de Dieu, ce qui a donné lieu à l'élaboration de multiples preuves, entre guillemets, de l'existence de Dieu, en admettant, évidemment, qu'on puisse démontrer quelque chose que l'on ne peut pas observer, hein, ce que la science moderne refuse, puisque, selon elle, il ne peut y avoir de preuves qu'à partir du moment où on a non seulement une théorie qui tient la route, mais où cette théorie peut être corroboré, confirmé par ce que l'on peut observer. Donc au sujet de Dieu, la raison humaine a fabriqué des preuves, hein, mais à défaut d'observation, ces preuves sont toujours restées un peu hypothétiques. Il y en a deux, notamment, de ces preuves élaborées par la raison, qu'on peut mentionner. Il y a d'abord la preuve selon laquelle Dieu existerait parce qu'il faut une première cause. Je m'explique. Chaque être du monde, chaque chose du monde est causé par quelque chose. Moi-même, j'ai été causé. J'ai été causé par mes parents, qui eux-mêmes ont été causés, c'est-à-dire dont l'existence a été causée par celle de leurs parents et par celle de leurs parents, et ainsi de suite, jusqu'au passé le plus lointain. Et on dit, ceux qui ont réfléchi rationnellement à l'existence de Dieu, il faut nécessairement que quelque chose comme Dieu existe, c'est-à-dire que quelque chose comme une première cause existe, qui ne soit pas causée par quelque chose qui la précède, mais qui soit, ça sera la fameuse formule de Spinoza au XVIIe siècle, qui soit causa sui, c'est-à-dire cause de soi. Bon, écoutez, je vous laisse méditer sur cette première preuve possible, possible, jusqu'à quel point est-elle convaincante, à vous de juger, de l'existence de Dieu. Il y en a une deuxième, très célèbre, qu'on trouve justement chez Averroès. Averroès dit, pour avoir une connaissance rationnelle de Dieu, il faut le considérer comme un artisan, ou comme un architecte, comme un grand architecte, comme un grand artisan, qui serait le responsable de l'ordre, de l'harmonie, des lois naturelles que l'on voit à l'œuvre dans l'univers. Donc on pourrait connaître Dieu de façon indirecte par la contemplation de l'univers, c'est-à-dire par une capacité d'attention et d'étonnement par rapport ou vis-à-vis ou envers tout ce qui, dans l'univers, fonctionne, comme le dira Voltaire à son tour, comme une horloge à laquelle il faudrait un grand horloger. C'est ce qu'on appelle, nous les philosophes, de façon un peu abstruse, la preuve physico-théologique. Physico-théologique, c'est-à-dire qu'elle est tirée justement de l'observation du monde physique et de sa perfection. Bon, hélas, le monde physique n'est pas que perfection. Et donc, si le monde nous parle de Dieu, il nous parle d'un Dieu qui ne serait peut-être pas nécessairement bon, puisque dans le monde, il y a aussi non seulement de l'harmonie et de l'ordre, mais il y a du désordre, il y a du mal, il y a de la violence, ce qui a toujours d'ailleurs été une objection de ceux qui ont voulu réfuter cette preuve physico-théologique de l'existence de Dieu. Ils ont dit, si Dieu est bon, d'où vient le mal que nous constatons tous les jours dans le monde? Voilà. Que conclure de ces preuves de l'existence de Dieu? Et puis, donc au-delà même de cette phrase de Averroès, la vérité ne peut être contraire à la vérité. Le fait que peut-être la foi, la raison, pourquoi pas la vision mystique, sont des facultés, des possibilités qui nous permettent d'approcher une part de vérité, mais je crois qu'il doit y avoir une modestie de la raison, qu'il doit y avoir également une modestie de la foi, contre la tentation de considérer qu'à un moment donné, que l'on soit un homme de raison ou que l'on soit un homme de foi, que l'on soit un philosophe ou que l'on soit un croyant, contre la tentation de considérer qu'on peut détenir la vérité. Je préfère penser que la vérité court toujours devant nous et que, tous ensemble, de façon complémentaire, avec nos croyances, avec nos outils, les outils qu'on a choisi d'utiliser pour cette quête de la vérité, nous essayons ensemble de coopérer pour qu'elle se laisse approcher un peu plus. On a terminé cette émission comme on l'avait commencé, avec la voix d'Oustad Ghulam Hassan Chaghan. C'était Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Aujourd'hui, je recevais un grand spécialiste d'Averroès, professeur à l'Université de Paris 1. Il s'agissait de Jean-Baptiste Brenet pour Averroès l'inquiétant. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiet quand même. Vous pouvez podcaster cette émission sur le site de France Culture durant 1000 jours. Pour la préparation de cette émission, aujourd'hui, je remercie mon attaché de production, Dominique Compétissa. Je remercie également à la réalisation Franck Lilin et pour la prise de son, Valérie Lavalard. Dans quelques instants, vous retrouvez Louise Touré pour Rue des Écoles.
Allah, 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 All Allah, 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 Allahu 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 Allah, Allahu
Allah, 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 Allah.